Alright, 10h01, salut, bon matin, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Marceau, son nom elle c'est Audrey Pinchot. Elle a de l'air en forme ce matin.
Et tu trouves?
Elle fait croire aux gens qu'elle met 17-18 les calorifères à la maison, mais ici quand c'est à 22, elle a quand même une genre de grosse couverte pour se réchauffer.
Oh, mais il y a quelque
c'est
chose.
C'est tanné rien quand on prend. Mesdames, vous êtes compliqué.
Mais sais-tu que c'est pas une question de tolérer la température, c'est une question d'être bien. Quand tu fais 25 un matin, tu peux plus enlever des couches. Mettons, tu sais, t'es tout nu un matin, là. T'es pris pour transpirer puis être pas bien. Tandis que quand tu fais frette, le bon côté, c'est que tu peux rajouter des couches puis tu comprends être confortable.
Ah, OK, voilà.
Moi, je suis heureuse avec ma doudou un matin, là.
Ouais, mais quand il fait chaud, tu peux enlever des couches.
Ben, pas ici.
Fait qu'on a mis ça à 27. C'est moins 12 degrés sur Québec. Je vais juste faire un petit rafraîchissement, là. Ouais, c'est ça. C'est moins 12 degrés. On nous dit qu'à certains endroits, il y a de la neige. Peut-être un 2 cm d'accumulation pour ce qui est d'aujourd'hui, maximum de moins 8 degrés. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux, avec 30 % de probabilité d'averse de neige, un minimum de moins 10 degrés. Avec le refroidissement éolien actuellement, c'est un moins 18 comme température ressentie. Puis je regardais, il y avait une dame qui fait du déménagement, puis je pense qu'elle s'occupe aussi de domper ce qu'il faut que tu dompes dans le conteneur tantôt. Puis elle rentrait en dedans, elle était habillée, je te dirais, moins chaudement que toi. Puis elle travaillait dehors à moins 18 au grand vent, puis elle avait chaud.
Ah, voyons donc. Mais là, c'est sûr que ça transporte du stock sans arrêt.
Il y en a qui travaillent fort en tabarouette, puis on vous salue. Mais il n'y a rien de pire que le chaud-froid, là.
Ouais.
Tu comprends?
Oui, totalement, mon Dieu, c'est désagréable.
Tu transpires, tu sors dehors, tu gèles, t'as l'humidité, tu rentres en dedans, tu commences à sécher,
mouillé.
Tu ressors, tu transpires, ça peut être complètement fou.
C'est idiot.
Vendredi, donc, généralement nuageux avec un maximum de moins 6 degrés. Pour ce qui est du week-end, la neige maximum de plus 1. Donc, ça se peut qu'il pleuve. Je ne me rappelle pas trop de mes cours de sciences, là, mais je pense que quand c'est plus 1, ça se peut qu'il y ait de la pluie plutôt que de la neige. Et dimanche, ce sera une alternance soleil-nuage avec un maximum de moins 3 degrés.
Oh mon Dieu, c'est doux.
C'est quoi ces papiers-là que tu m'as amené ici?
Ça, tout ça, ça t'appartient pas.
Contrat de Véronique Bergeron. Contrat de Denis Gravel.
Faut que j'ai reporté ça là-bas. J'ai pogné une pile de feuilles.
Max Larouche!
Ben oui. Veux-tu me dire combien gagne que je fasse mes bonnes négociations l'été prochain?
C'est pas assez pour intéresser une fille.
Non?
Non, c'est... Caroline. Non, c'est ça.
On va y passer le message. C'est peut-être pour ça que ça marche pas, son affaire.
C'est écrit ici, bénévolat 40 heures.
Ah, Caroline.
Ça peut pas fonctionner.
Peut-être pour ça qu'il pogne pas.
Bad Bunny, en résidence à Porto Rico, après son album dédié aux racines. Ça, c'est vraiment pas important.
C'est drôle parce qu'on est vraiment une gang à utiliser l'imprimante parce qu'on prépare nos shows pour deux antennes simultanément. Puis là, probablement que je viens de retirer des sujets à quelqu'un sans m'en rendre compte. Moi, j'ai imprimé mes feuilles, je suis partie avec la pile que j'avais imprimée pour me rendre compte que c'était pas ma pile.
Mais qui parle de Bad Bunny?
Ben là, j'oserais te dire que c'est à week-end que ça se passe.
Ah oui? Oui, t'as volé les affaires de week-end? Ça, j'aime ça.
Oui, j'ai volé les affaires de week-end. Ben écoute, ça peut monter nos chiffres.
T'as-tu déjà volé de quoi?
Non. Ah oui, en fait, justement, c'est pas vrai, mais j'étais vraiment jeune. Je pense que j'avais comme 3 ans, c'est ma mère qui m'a raconté. J'avais volé un paquet de gomme, là, comme tous les enfants du monde. Là. J'avais pogné de quoi à caisse, puis ma mère, quand elle s'en était rendue compte, dans le parking, elle m'avait pris par la main, puis elle m'avait dit « Tu vas aller t'excuser à la caissière et redonner le paquet de gomme, parce qu'on fait pas ça. »
Oh boy, OK. Puis ouais. Là, ben, t'as eu honte, j'imagine?
Absolument. Mais ben là, écoute, je te dis ça, je m'en souviens pas comme parfaitement, là, mais je me souviens probablement que ça devait être super gênant. Puis, en fait, je pense que c'est la façon d'apprendre parce que tu le sais pas quand t'es jeune que c'est pas bien. Là, je veux dire, tu prends ce que tu vois,
tu joues
avec.
Tu ne le sais pas quand c'est pas bien.
Ben non, mais quand t'as 3 ans, tu vois un paquet de gomme qui traîne, t'es pas au courant de l'argent.
Ça fait une couple de fois que j'entends parler de tes parents, là, puis je pense que tes parents sont A1. Là. D'après moi, quand tu prenais quelque chose qui t'appartenait pas, tu te le faisais dire
absolument.
À ses rêves.
Absolument.
Bon, c'est ça. Quand ça n'est pas de t'en sortir, moi j'avais, je sais pas si tu as connu ce temps-là, mais le temps, pas le temps d'Hélène Boudreau avec ses oursons gommis, là, mais il y avait.
Ça, c'est récent quand même.
C'est ça. Il y avait des petits oursons qui étaient en vente à une scène.
Solo?
Solo. Puis c'était comme dans une petite boîte, puis c'était à l'endroit où on met maintenant les palettes de chocolat puis les gommes. Là.
Ah ouais?
Donc ce que tu faisais, c'est que tu disais, ben je vais te prendre 30 petits oursons. Puis là, ben, ça dépendait du commis. Des fois, il te donnait un petit sac brun pour pouvoir mettre tes 30 petits oursons avec ton 30 sous.
C'est bien cute.
Mais il y en a qui prenaient leurs doigts. Puis là, ils comptaient 1, 2, 3, 4, 5. Puis moi, ben, j'arrivais tout le temps avec ma pièce. Puis je prenais tout le temps une grosse poignée. Puis le commis ne les recomptait jamais.
Fait que t'en avais probablement plus pour
ça. Ça, ben, c'est clair.
Mais oui, voyons.
J'ai toujours fait pour en avoir plus pour mon argent.
Mais regarde, si t'avais l'accord du commis, t'étais correct dans le fond, là.
Ouais, c'était pas l'accord du commis, c'était carrément un vol, mais je me souviens que j'avais fait ça.
Ah, oh, ouais?
Ouais. Oui.
T'étais ce genre de petit gars-là.
J'avais déjà pris... écoute, j'étais au cégep à ce moment-là. J'avais... Ça, 17 ans. Oui, 17 ans. J'avais déjà pris au chez Ronald McDonald la sauce Big Mac. Parce que je voulais faire un party chez nous, je voulais faire des burgers. Puis je me suis dit, ben je vais prendre la sauce Big Mac du McDo.
Oh mon Dieu, c'est secret cette chose-là.
Ben oui!
Ça l'était surtout à l'époque.
J'ai déjà pris ça. Ouais.
Voyons, toi!
Oh, ouais.
Mais j'avoue, là,
j'ai
tu parles
fait
de McDo.
Prison encore. Ouais.
Ben, j'avoue que chez McDo, j'ai travaillé longtemps. C'est sûr que quand il y avait du waste, qu'on appelle, quand, mettons, je ne sais pas, c'était une mauvaise commande client, il y avait un 4 croquettes de trop, ça pouvait arriver qu'au lieu de jeter le 4 croquettes, je partais avec. Mais tu sais, hein, c'était pas un vol, c'était de la conscience environnementale.
Ouais.
Je voulais pas gaspiller de nourriture, tu comprends?
Ça devait être ça, ouais.
C'est ça. Il y a des gens qui mangent pas sur la planète. Je pouvais pas jeter un 4 croquettes, fait que je m'occupais de le manger.
Est-ce que j'ai volé d'autres choses? Je me souviens pas.
Avez-vous déjà volé 88-971-1021? Ou pris vos enfants peut-être à voler? On dirait que j'ai le goût de lire vos histoires.
J'ai jamais pogné mes gars volés.
Pas encore?
Jamais. Je sais que mes gars se sont fait voler puis ils ont su ce que ça faisait de se faire voler.
Ça s'en fait voler quoi, hein? C'est pas indiscret.
Leur banque. Leur petite banque à la maison. On avait fait un gros party avec les amis, là, un party de fête, puis il y en a qui sont partis avec le contenu intégral des petits cochons.
Oh boy! Puis on sait pas c'est quels amis, là.
Non, on sait pas c'est quels amis. Puis souvent, tu sais, tu veux pas faire de chicane avec les autres parents, fait que tu laisses ça passer. C'est juste que le travail à la maison avec mes gars a été fait, c'est-à-dire que ça existe, les gens qui volent, puis il faut juste surveiller nos affaires. Puis quand on a quelque chose auquel on tient, ben il faut le serrer dans un endroit où on est persuadé que ce sera pas à la vue des gens.
Il y a des gens malhonnêtes dans le fond.
Mais mes gars, ce sont toujours... Encore à ce jour, on ne sait pas qui avait volé les petits cochons de mes gars. C'était pas grand-chose. C'était genre 7-8 piastres en petite monnaie qu'il y avait là-dedans. Ouais, puis tu sais, c'est des bébés. Mais pour garder comme une bonne entente avec les parents, là, autour, on a comme rien dit.
Ah, mon Dieu, t'es vraiment un bon père parce que moi, j'aurais pogné une heure. Moi, quand j'étais jeune, je me suis fait voler mon idée de jeune entrepreneur. Et donc, je me suis fait voler des sous par la bande.
S'appelles-tu Elon Musk?
Quand j'étais... Le maudit, imagine comment je serais milliardaire. Non, j'étais au primaire, puis ma mère m'avait dit, probablement pour m'apprendre à justement gérer l'argent puis tout, ma mère faisait avec moi des suçons maison. J'avais du plaisir fou à faire ça avec ma mère, OK? Et on avait une recette, puis on créait des suçons maison dans des mini moules à muffins avec des bâtons. Puis moi, j'amenais ça à l'école, dans le cours d'école. Puis là, ben, je vendais ça. Genre 25 cents, le suçon. Fait que je me faisais des sous, puis les jeunes tripaient, puis venaient m'acheter un suçon, tu comprends, à récréation. Puis j'étais donc bien contente d'avoir ma petite business de suçon. Puis une petite maudite un peu plus populaire que moi qui a pris le même concept. Puis étant donné que moi, j'étais un peu rejet, ben tu comprendras que mes suçons ont pris le bord, puis ma business a arrêté de fonctionner, elle a fait faillite. Fait que elle s'est mise à vendre des suçons pendant les récréations. Moi, j'ai perdu mon compte. Fait que ils m'ont volé mon argent, ils m'ont volé mon idée d'entrepreneur.
Épouvantable.
Ben j'ai appris comme ça, c'était quoi, hein, la méchanceté?
Ben oui.
Sans blague, je sais que ça a l'air con, mais je me souviens comment ça avait des filles.
Quelqu'un qui dit, ma fille de 4 ans arrive régulièrement avec des petits jouets de la garderie des fois.
Oh, ouais. Mais ça, c'est normal en plus. Mais c'est l'occasion en même temps d'en parler.
Exact. Ben, c'est ça, c'est à cet âge-là qu'il faut
ben
que tu fasses ça.
Oui, parce qu'ils s'en rendent pas compte, eux autres. Là,
sûr que quand tes gars ont 30 ans puis ils vont tirer quelqu'un à Sainte-Marie, c'est comme rendu trop tard pour faire
la job a mal été
du paternalisme. Hein? Quelqu'un qui dit, Marceau, t'as déjà volé les bonbons d'Halloween de tes gars. J'ai pas volé les bonbons d'Halloween de mes gars. Je leur ai montré que quand on est sur le marché du travail, le gouvernement nous surveille puis il nous coupe de moitié notre salaire. C'est ça que je leur ai montré.
T'es pas correct.
Pourquoi c'est pas correct?
C'est un concept de marde pour essayer de t'excuser.
Puis curieusement, il y avait plus de Coffee Crisp dans ce que le gouvernement a retiré.
Ah, mais ça, j'en doute.
Sac de bonbons.
Vous avez un problème, les papas, avec les Coffee Crisp? C'est épouvantable.
Ouais, je sais pas.
Il y a beaucoup de textos qui entrent par rapport au vol. Puis tu sais, on parlait des le texto qui est rentré sur la garderie, tu sais, le jeune de 4 ans qui a ramené des jouets à la maison. Il faut dire qu'il y a quand même une ironie quand ils pensent, Yann, parce que quand ils sont jeunes, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on leur apprend à partager avec les amis. Il faut qu'ils partagent leurs affaires tout le temps, tu sais, puis... Je trouve qu'il y a une ironie dans le fait, parce que c'est normal après ça qu'un enfant, tu te comprends, parte avec un jouet. Le partage est de mise. Fait que je trouve que c'est mêlant pour les petits. Là. Il y a Dave ici qui nous dit... oui, ça, c'est les jouets de 4 ans. Steve nous dit... nous autres, c'était des exports à 25 cents que mon ami vendait. C'est quoi des exports? C'était-tu de la bière?
Des exports, ça pouvait être de la bière, ça pouvait être aussi des exportés, donc des cigarettes.
Ah, oh, mon Dieu Seigneur!
Redis-moi ça.
J'étais bien trop jeune. J'ai peut-être pas le bon à des export, peut-être ouais. que je le demande en anglais pour rien.
Relis-moi le texte.
Nous autres, Audrey, c'était des exports à 25 cents que mon ami vendait.
C'était ça des probablement des petites cigarettes à 25 cents.
Ça fait plus ouais, de sens.
À l'unité.
Si je sers ma blonde dans le sous-sol quand je la visite, ça risque pas d'être mal vu. J'ai-tu manqué un bout?
Ouais.
T'es-tu trompé de texto?
Ado, on s'était rempli les poches de feu de Bengale au Dollarama. Il en avait fait une pile en avant du dock de livraison de Place Donnacona. Ça fait un maudit beau petit feu d'étincelle.
J'ai déjà volé vers l'âge de 12 ans dans un magasin style Ardennes. Ardennes, c'est un magasin plus féminin où tu retrouves plein de petites bébelles, des colliers, des souliers, du linge. J'étais la seule de mes amis à avoir de l'argent. Je m'étais acheté les choses que je désirais, mais mes amis n'en avaient pas. Alors, ils m'ont mis au défi de voler les choses pour eux et de les mettre dans le sac avec mes achats. Je suis la seule à m'être fait pogner. Les « amis » entre guillemets sont partis. La gérante m'a enfermée dans le backstore sur une petite chaise. J'avais presque de la difficulté à respirer. Alors, quand ma maman m'a trouvée là, elle était fâchée du jugement de l'employée. Elle a crié après, elle m'a pris par les bras, on a quitté. Elle a dû passer pour la mère qui excusait mon geste, mais pas besoin de vous dire que j'ai passé un mauvais quart d'heure rendu à la maison. Tout ça pour impressionner mes amis quand moi, j'avais gagné mon argent, honnêtement. Il y a ça aussi, des fois, c'est des ados qui se font influencer. En fait, c'est souvent ça, là. Il y a quelqu'un qui nous dit, je n'aimerais pas le nom, mais un ami de mon fils tente toujours de voler un jouet ou dans son cochon chaque fois qu'il vient jouer à la maison.
Qu'est-ce que tu fais? Je me suis posé cette question-là. J'ai jamais pris un autre enfant là, à voler chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu interviens directement avec l'enfant en lui expliquant?
Oui.
Est-ce que tu discutes avec les parents de cet enfant-là?
Ah, moi, je parlerai à l'enfant.
Ouais. Parce que quand c'est tes voisins, t'es comme tout le temps hésitant. On a toujours tendance à défendre nos enfants.
Oui, c'est t'sais, normal.
On a toujours le réflexe de dire, « Hey, mon gars a peut-être fait ça, mais il a pas fait ça pour rien. » Tu comprends?
Ouais. Oui, je comprends
s'il
totalement.
S'il a fait ça, c'est parce qu'il s'est fait écœurer, alors qu'on n'était pas là. Puis
ouais.
Nos enfants, ben on a tendance à leur faire confiance, mais des fois, ils peuvent nous mentir aussi pour nous en passer des petites vites. Fait que je préfère, moi, intervenir directement avec mon enfant ou avec l'enfant qui tente de me voler que d'aller voir le parent pour tenter de lui expliquer. Parce que je suis pas sûr que... Tu sais, pour avoir jasé avec des enseignantes, là, les parents, même si c'est un adulte qui raconte ce qui s'est passé... Ce que l'enfant a fait, les parents sont souvent sur la défensive parce qu'ils prennent
ben,
ça sur eux. C'est comme si c'était de leur faute si leur
éduqué.
Enfant avait traité de gay un autre ouais. enfant. T'sais, non, ouais. c'est juste que ton enfant l'a dit parce qu'il a entendu ça quelque part. Tu peux-tu juste intervenir? Nous, on a fait notre job à l'école, mais toi, de ton côté à la maison, tu peux-tu lui expliquer? T'sais?
Comment tu réagirais si un de tes gars est chez un ami, il est pris à voler, puis que le parent intervient directement avec ton gars?
OK. J'adorerais ça. Mais moi, je suis plus du côté de... Attends un peu, là. Tout le monde va se rencontrer, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis mon gars va expliquer pourquoi il a volé.
OK.
Sans nécessairement lui faire honte, là, parce qu'il n'y a rien de pire que de... Tu sais, j'ai déjà raconté une histoire de quelqu'un qui avait amené son enfant au magasin, puis il avait dû aller s'excuser au gérant. Puis après ça, le parent, il a décidé de mettre l'enfant devant le magasin. Puis sur une affiche, t'as écrit « J'ai volé dans ce magasin ».
Ah,
tu fais jamais ça,
poussé,
à ton
ça,
enfant. Jamais, jamais, jamais.
Mais tu sais, moi, la honte dont tu parles, par exemple, je pense que quand elle n'est pas... Si l'enfant la ressent sans qu'elle ait été imposée, je trouve ça correct. Je te donne un exemple super banal, mais je sais pas. Mon gars, mon futur gars intimide à l'école, je l'apprends. Bien, c'est sûr que je vais l'amener, tu comprends, chez l'intimidé pour qu'il s'excuse devant le parent puis l'enfant. Si lui ressent de la honte, bien, je comprends qu'il soit honteux de son geste, il n'a pas été correct. Et puis peut-être que je suis sadique, là, je ne sais pas si j'ai la bonne méthode, mais moi, je sais que j'ai dû m'excuser quand j'avais besoin de m'excuser. J'ai dû prendre mes responsabilités. Et je pense que
ouais.
ça m'a responsabilisé. Fait que je pense que c'est important aussi, par exemple, que ton enfant vive un peu les conséquences de ses actes.
Mais je l'ai échappé belle. T'sais, moi, mes gars, quand je vais au Dollarama, là, je le sais qu'à la hauteur de leurs yeux, il y a plein de petites gogosses
oui,
qui pourraient prendre
pour
et mettre ça dans leur poche. Je les ai jamais pognés. Peut-être qu'ils l'ont fait, puis je les ai pas pognés, mais je les ai jamais pognés à faire ça. Fait que j'ai été chanceux. J'ai appris ce matin que j'étais un mauvais ex.
Toi?
Oui.
Pourquoi?
Je sais pas. Vous autres, êtes-vous des bons ex? 418-971-1021.
C'est tellement relatif.
Es-tu un bon ex?
Honnêtement, là, je vais me donner ça dans la vie. Je pense que je suis une excellente ex.
Oui?
Oui. Okay. Même avec les trous de cul.
Moi, je pense...
Ah non, je te dis.
j'ai jamais eu de blonde trou de cul.
Ah mon Dieu, ouais, je pense que c'est plus masculin que féminin.
Ça a tout le temps été des filles formidables. Mais là, je suis jaloux.
T'es jaloux de?
De mon
ton ex.
Ouais.
C'est pour ça que t'es un ex de marde.
Ce matin, j'étais un ex de marde.
Vas-y donc.
Ce matin, je me dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je vais juste vous raconter ce qui se passe présentement. La mère de mes gars est en Afrique.
Hey, mon doux, la chance.
Pour ses 40 ans, avec son ami d'enfance, JP, que je salue s'il nous écoute. Ces deux êtres totalement formidables qui ont toujours été des amis de la petite garderie jusqu'à aujourd'hui. Puis, ils voulaient vivre pour leurs 40 ans ensemble quelque chose d'exceptionnel. Puis, ils ont décidé qu'ils se tapaient un trip en Afrique.
C'est capoté.
Puis là, elle m'envoie, la torieuse, des vidéos de sa chambre, qui est en fait une cabine dans la brousse, puis elle sort de sa cabine dans la brousse, là, elle ouvre la porte, puis il y a des girafes. Hein. 4 girafes. Je te les ai montrées ce matin.
Tu m'as montré les images. C'est magnifique comme paysage.
4 girafes. Puis quelque chose qui s'apparente à être des chevreuils. C'est pas des chevreuils. Là. Ils ont comme un autre nom. Là. Mais des petits chevreuils qui sont autour de sa cabine. Sérieux, ils vivent le trip de leur vie.
C'est magnifique. En fait, on dirait une peinture. C'est pas compliqué. Là. C'est ridicule. Puis c'est le genre de paysage qui est beau autant quand il fait beau que quand il pleut, mettons. Il y a quelque chose de, je sais pas, de magique dans ce type de paysage-là. Honnêtement, je l'envie un peu aussi. Fait qu'écoute, je la connais même pas, puis je serais une ex de marde, moi aussi. Je te comprends.
Ah non! Ils sont en Afrique, la température est super adéquate, puis ils sont carrément dans la brousse, puis ils voient des lions au loin, des tigres, des girafes.
Ils vont sûrement faire des safaris, j'imagine.
Ben oui, c'est eux autres, c'est des safaris plus safaris photo, là. Mais ils vivent leur trip de vie. Puis là, à un moment donné, elle arrêtait pas de m'envoyer des photos. Puis là, à chaque fois, je likais, je regardais les photos, puis je me disais, Criff, pourquoi nous autres, on se tape, t'sais, comme 7 jours sur 7 au Québec?
Oui, pourquoi on s'oblige à vivre vraiment dans... Ben, je vais dire dans les règles de la société, ça a peut-être l'air un peu intense, mais c'est parce que tu parles de ce voyage-là. Puis j'avais un ami au cégep, moi, qui avait décidé qu'il revenait vraiment juste dans le temps des fêtes pour passer Noël avec sa famille, puis travailler une shot pour se faire des sous, puis il repartait, puis son but, c'était un peu de faire le tour du monde. Mm-hmm. Puis il voyageait de façon, bon, peut-être un peu moins, tu sais, il avait pas, bon, tout l'argent du monde, là, fait qu'il travaillait, mettons, dans des auberges jeunesse pour être logé, nourri, puis de cette façon-là, il se ramassait des sous, puis il était capable, tu comprendras, de changer de pays, puis je me disais, quand je le voyais aller, puis faire ces voyages-là, puis les paysages qu'il m'envoyait,
ouais.
Hey, t'as des gens qui décident de vivre en marge de la société, oui. De vivre différemment, puis qui doivent, tu comprends, vivre probablement la plus belle vie, là, en toute simplicité, sans stress, concentrés sur eux et leur propre bonheur.
Faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. Là.
Oui, ouais. Mais concentrés sur des connexions humaines, tu comprends? Il n'y a pas d'anxiété de performance ou de... T'as rien de négatif autour de toi, là. C'est dans la simplicité. Faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, mais je veux dire, t'as plus de domicile fixe ici. Puis tu travailles un peu là-bas pour être logé, nourri gratuitement au final. Tu rencontres des gens. Ouais. Et moi, c'est un rêve, là.
Fait que c'est ça. Une dizaine de vidéos qu'elle m'a envoyées ce matin de son trip en Afrique avec les animaux
on
qui sont autour de sa cabine. Puis là, rendu à la dixième vidéo, j'ai écrit « L'abonné que vous désirez joindre ne peut vous répondre en ce moment. Veuillez rappeler un peu plus tard. Au revoir! »
Yannick a quitté la conversation.
Vous ne pouvez plus... L'individu vous a banni.
Impossible de communiquer. Hey, Seigneur, non, mais moi, je veux qu'elle continue de t'en envoyer parce que je veux que tu me les transfères. Ça nous fait voyager puis ça nous fait rêver.
Oui, au Mexique, j'ai rencontré un gars qui, lui, c'est attends un peu, je ne vais pas me tromper, là. C'est un médecin, mais je pense que c'est un médecin avec une spécialité, là.
Okay.
Il parlait anglais, fait que, tu sais, je jasais avec, puis j'essayais de me débrouiller, puis j'essayais d'essayer de comprendre ce qu'il me disait. Puis lui, il me mentionnait qu'il se promenait à travers le monde. Puis il travaillait dans des hôpitaux. Il vendait ses services de médecin
sans frontières.
Une semaine, deux semaines, trois semaines. Je ne sais pas si c'est médecin sans frontières. Puis il n'y a pas vraiment de demeure. Là. Fait qu'il se promène des resorts. Quand il y a deux semaines de libre, il s'en va faire un resort par-ci, un resort par-là. Il va faire un tour en Europe. Il va vendre ses services-là.
Qu'est-ce
il y a plusieurs
qu'on fait, Yann,
façons
pour
de gagner sa vie. Ben, en fait, moi, je ne suis pas médecin. Mais j'opère en sacrement. Mais il y a plusieurs façons de gagner sa vie. J'ai rencontré une agente de voyage qui fait la même chose. Elle est toujours sa trotte. Mm. Puis elle gère ses clients dans sa ville. Elle travaille dans le Massachusetts. Oui, je pense que c'est même, oui. Ça se dit. Puis ses clients sont au Machachichette, puis elle se promène partout, puis elle communique avec eux par Internet, puis elle les book. Elle book les avions, elle book les hôtels et tout ça.
Tu sais, c'est capoté.
Puis la personne peut avoir un problème en Afrique. Elle, je sais pas, moi, est en Amérique du Sud, dans un pays X, puis « Ah, OK, t'as un problème en Afrique, OK, t'es peu, laisse-moi, tu veux-tu... Ben, à 14h, j'aurai un vol pour toi. OK, ben, book-moi ça. OK, 14h, c'est parti. » C'est fou, là!
Mais
ils n'ont pas d'attache. Ils n'ont pas d'enfant.
Puis ils ont créé leur chance, je pense, aussi. T'sais, dans la mesure où on peut bien dire « les chanceux », mais demain matin, je veux dire, je pourrais décider de tout foutre là, puis j'ai pas encore d'enfant. La seule attache que j'ai, c'est mon conjoint. Bon, là, il veut te suivre ou pas, c'est la question, mais on peut le faire, mais je pense qu'il y a une certaine peur. Peut-être que je me trompe, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas vivre de cette façon-là, un peu en marge, là. Pour mille et une raisons.
Je pense que ça va se faire de plus en plus.
Je pense aussi.
Ça va se faire de plus en plus parce que l'accès au logement est de plus en plus difficile. Je suis une fille sur... Je sais pas si c'est sur TikTok que je la suis ou encore sur
Instagram,
les stories Facebook et tout ça. Mais elle a eu un accident. J'y ai parlé d'ailleurs il y a deux semaines. On va peut-être la voir à l'émission bientôt. Elle a eu un accident de travail. Elle s'est faite battre sur son lieu de travail. Je sais pas où elle travaillait, bien honnêtement. Puis elle a décidé, ben, tu comprends qu'après ça, ben, l'hôpital, après ça, la récupération, elle n'était pas capable de retourner travailler. Puis le montant qu'on lui donnait n'était pas suffisant pour continuer de payer l'appartement qu'elle avait. Mm. Fait qu'elle a décidé de tout vendre. Elle s'est acheté un caravane. Puis là, elle travaille à distance, puis elle est dans son caravane, puis elle se promène. Là, actuellement, si je me trompe pas, elle est dans le secteur de la Californie, quand je lui ai parlé. Puis elle avait fait sa dernière vidéo. Il y a peut-être des gens qui vont la reconnaître, 418-971-101. Mais sa dernière vidéo, c'est... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Vous m'écrivez pour me dire que je vis ma best life. » Ce que vous voyez, effectivement, ça peut être ma best life, mais vous me voyez pas pleurer. Mm-hmm. Je suis plus capable de retourner au travail. J'ai de la difficulté.
Je suis là pour une raison.
Des fois, là, j'ai des gros downs, puis j'ai trouvé ça très cool. Tu sais, moi, je ne suis pas des influenceurs, mais ce type de message-là, c'est plus positif, tu sais, que tout autre message de « Hey, salut, je me promène, j'ai vu cette poutine-là, elle est excellente, je lui donne un 10 sur 10. Ouais. » Ça, moi, je m'en crisse un peu. Ouais. Mais ce genre de commentaire-là qui est hyper pertinent...
Mais c'est authentique, c'est réel.
Cessez de vous comparer avec les autres sur les réseaux sociaux, comme quoi ils ont de l'air mieux que vous autres, parce que ce qu'ils vous montrent, puis c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo, puis j'ai trouvé ça le fun qu'elle dise ça, puis en plus, j'y ai écrit parce que je trouvais ça formidable. Ce qu'elle dit dans sa vidéo, c'est vrai, c'est la vraie vie. On vous montre ce qu'on veut bien vous montrer, mais on ne vous montrera pas quand on est malade ou quand on est désarmé face aux trucs qui nous arrivent dans la société.
Totalement. Bien, c'est parce que c'est pas glorieux. Je veux dire, si on montrait que ça, il y aurait pas, elle n'aurait pas beaucoup d'abonnés si elle montrait juste du négatif non plus. Là. Mais oui, ça fait du bien, ces comptes-là. Puis je suis contente. Si tu me dis qu'on va la recevoir, je trouve que c'est des histoires qui sont inspirantes et qui valent vraiment la peine d'être partagées.
Exact. 10h23. Aujourd'hui, vous êtes dans l'open mic. Merci d'être là. On va recevoir Dr Maude Bouchard.
Oui, c'est une neuropsychologue qui est spécialisée en sommeil. J'avais jasé l'été passé. Je l'avais trouvée, mon Dieu, excellente. Puis on avait beaucoup pris les questions d'auditeurs dans cette discussion-là. Puis c'est que la semaine passée, toi puis moi, Yann, on se posait des questions un peu sur les principaux perturbateurs de sommeil, entre autres. Fait qu'on s'est dit, hey, pourquoi pas la recevoir? Puis il y a des articles qui sont sortis dernièrement sur une maladie que je ne connaissais pas, le syndrome de Gélino, qui s'appelle la narcolepsie, où, en gros, tu t'endors n'importe où, n'importe quand, sans même t'en rendre compte des fois.
As-tu déjà vu ça?
Moi, j'ai jamais croisé quelqu'un qui avait ça.
Il y a plein de gens qui sont victimes de préjugés. Là. Je sais pas si c'est une maladie qui est très répandue. Elle saura nous le mentionner, Dr.
Bouchard. 20 000 Canadiens.
Mais moi, j'avais servi un gars pendant plusieurs années au Cosmos, sur le boulevard Laurier. Il arrivait à la porte, il était debout. Il s'assoyait, il s'endormait. J'arrivais, je le réveillais, il me donnait sa commande, il se rendormait. Puis au départ, on pensait que c'était quelqu'un qui avait l'air d'un toxicomane ou d'un gars qui prenait une brosse une fois de temps en temps. Fait qu'on pensait que c'était ça la problématique. Pour finalement, un moment donné, commencer à y jaser puis dire qu'il faisait de la narcoleptie. Puis ça se contrôle maintenant, ça se contrôle pas super bien, là, mais ça se contrôle. Il y a des médicaments qui sont donnés. En plus de ça, bien, ils prennent du café pour essayer de se réveiller. Puis on avait vu, toi et moi, un reportage sur une fille qui étudie en ATM.
Oui, elle est à Jonquière.
À Saguenay.
Oui.
Puis elle est victime de ça, là, la fameuse narcoleptie. Puis elle essaie de faire ses cours. Puis c'est hallucinant parce que sur ses cahiers de notes, bien, il y a des bouts où elle se rend compte qu'elle s'est endormie.
Oui.
Fait que elle écrivait, elle s'endormait, elle se réveillait, elle continuait d'écrire. Puis quand elle relisait ses notes, elle savait exactement les endroits
mais oui.
où elle s'est endormie.
Puis c'est fou parce qu'elle, cette élève-là, qui est une maman, en passant, elle est retournée aux études puis elle veut devenir journaliste.
Ah, c'est une mère.
Oui, ouais. C'est un rêve qu'elle a toujours chéri. Puis je pense qu'elle se sentait très limitée par cette maladie-là parce que là, veut pas...
Ah, s'est-tu déjà endormie en faisant la montre? Non, c'est pas le temps.
On pourra l'inviter puis poser la question. Non, mais tu sais, c'est dangereux, surtout quand l'environnement est monotone. Fait que tu sais, dans un cours, mettons, ouais. théorique qui est long, tu fais de la longue route, ça peut être super dangereux. Puis il a fallu qu'elle explique.
Pas au devoir. Ça se dit pas non.
Franchement. Il a fallu qu'elle explique aux professeurs, mais aux élèves autour d'elle, parce que tu sais, c'était facile de dire, voyons, elle brosse, elle dort pas, elle travaille trop, elle priorise pas. Bien, c'est rempli de préjugés. Ouais. Voyons, la lâche qui s'endort devant nous autres, on l'emmerde à ce point-là. Elle est pas polie. C'est super difficile, c'est ça à vivre. Puis l'autre pan, parce que oui, il y a de la médication, l'autre pan de cette maladie-là, c'est que malheureusement, ces médicaments-là ne sont pas nécessairement couverts encore. On n'est pas rendu assez loin dans les recherches pour que Santé Canada... je dis Santé Canada, ça n'a même pas rapport pour que les assurances, finalement, décident de couvrir la médication. Fait que ça coûte excessivement cher.
Ouais.
Fait que tu as du monde qui en prenne juste pas puis qui endure. Fait que bref, c'est une des nombreuses maladies du sommeil qui est peut-être un peu moins connue. Fait que c'est de tout ça qu'on va jaser aujourd'hui.
Qui a fait l'envie des gens qui sont pas capables de dormir.
Hey, tu dis, mais elle s'endort en 4 secondes d'écart. C'est pas compliqué. Là.
Ouais, moi aussi. Quand je me couche, ouais. là, je perds connaissance. Là.
Arrête, toi, t'es en moins pouf.
T'sais, moi, je me ferme les yeux, je suis parti.
Chanceux. Et moi, j'ai l'hamster qui roule. Là.
Des fois, à 3h, 4h du matin, là, je peux être éveillé, puis là, j'ai de la misère à me rendormir. Mais quand je me couche, là, dès que je me couche la tête sur l'oreiller, c'est fini, c'est terminé.
Mon Dieu, je t'envie.
Ouais.
Vous avez des questions, il y a le Twitch, mais il y a le 88-971-1021 aussi. N'importe quoi, des questions personnelles ou sur le sommeil en général. On va faire un petit call-bras ce matin.
Le chum Bob Sonnette qui s'en vient sur les ondes de boulevard. Je te trouve écœurante.
Merci.
Je parlais pas de toi.
Bienvenue dans l'Open Mic. Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Boulevard 102-1-1.
Dans l'open mic, 10h33, 418-971-1021. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous voulez participer à l'émission, les sujets qu'on aborde, c'est le 418-971-1021. Ça fonctionne par texto. Sujet hyper important, je pense, que parce que ça va toucher tout le monde.
Ben oui.
On parle du sommeil. Si vous étiez avec nous avant la toune de Bob Bissonnette, on vous a raconté le pourquoi du comment. On voulait parler avec une personne qui était spécialisée en sommeil. Parce qu'on avait vu un reportage sur une jeune fille qui étudie en ATM pour devenir journaliste, qui était atteint de narcolepsie.
Oui.
Et on s'est dit, tiens, on va parler des problèmes de sommeil. On a trouvé une experte.
Oui, c'est une experte qui s'appelle Maude Bouchard, neuropsychologue spécialisée en sommeil. Ça sonne sérieux, là, j'ai confiance.
Ça sonne sérieux, fait qu'on va être sérieux ou pas. Doc, dormez-vous bien?
Ça va, c'est bien, je dirais. Bonjour, merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Pourquoi une neuropsychologue se spécialise en sommeil? Comment vous est venue l'idée de vous occuper du sommeil?
Bien, c'est vrai que ça fait sérieux, puis je pense que si je regarde le nombre d'années que j'ai étudié, j'espère que c'est sérieux, là, parce que c'est quand même un long processus.
Ouais.
Pourquoi le sommeil? Je pense que je trouvais ça fascinant que ça touche tout le monde, comme vous avez dit, puis parce que je trouve que quand on traite des problèmes de sommeil, puis il y en a beaucoup, là, des types de troubles de sommeil, des gens qui dorment pas bien, ça fait un gros, gros changement dans la vie des gens.
Ça a l'air tellement niaiseux comme question, là, mais pourquoi le sommeil est si important? Puis je pose la question parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui disent souvent « Ouais, mais je dormirai quand je serai mort », tu sais, en voulant dire « Regarde, pas fin du monde si je fais pas mes nuits, pas fin du monde si je fais de l'insomnie, pas besoin de régler ça, je vais survivre pareil ».
Bien, peut-être qu'il y a des gens qui se sentent comme ça, mais je pense qu'ils n'ont peut-être jamais vécu tant que ça d'insomnie parce que les patients qu'on voit en clinique, ils souffrent beaucoup de ce manque de sommeil-là. Puis, tu sais, je pourrais vous poser la question, comment vous sentez quand vous dormez moins bien? Dans la journée, on est pas mal plus irritable, nos relations sont pas pareilles, notre cerveau fonctionne pas de la même manière. Puis, pourquoi c'est si important? C'est parce que pendant qu'on dort, il se passe plein de choses dans notre cerveau. Nous, on n'en a pas conscience, mais ça nous aide à consolider la mémoire, par exemple, les informations qui étaient importantes dans la journée. Ça nous aide aussi, ça sécrète l'hormone de croissance, fait que ça aide aux muscles à récupérer. Il y a plein de choses qui se passent. Puis, si c'était pas si important, bien, à travers les années, on s'en serait débarrassé de cette affaire-là et on dort toujours.
Oui. Puis, on va avoir besoin du sommeil, je pense, pour l'éternité. Ben, là, l'humain va avoir besoin du sommeil pour l'éternité. Qu'est-ce qui cause les problématiques du sommeil, Doc?
Ça peut être tellement de choses. Si on parle d'insomnie, par exemple, parce que l'insomnie, je veux pas, c'est assez répandu. Là, on parle d'une personne sur deux qui a des symptômes d'insomnie à un moment dans sa vie, puis à peu près 10 à 20 % qui ont de l'insomnie qu'on dit chronique. Fait que ça veut dire que ça arrive souvent, puis c'est là depuis longtemps. Donc, c'est des millions de personnes. L'insomnie, ça peut s'installer tranquillement ou ça peut s'installer à cause d'un stresseur, une expérience traumatique, des changements de style de vie. Ça se traite bien, par exemple, mais c'est très répandu. Puis il y a plein d'autres troubles du sommeil. Vous parlez tout à l'heure de la narcolepsie, mais celui-là, il est le fun, le reportage, parce que c'est moins connu, la narcolepsie, que d'autres types de troubles de sommeil. C'est aussi moins répandu, mais des troubles de sommeil, il y en a des dizaines.
Est-ce que notre alimentation peut causer des problèmes de sommeil?
L'alimentation peut causer effectivement des problèmes de sommeil. Je pense par exemple aux gens qui vont manger des gros repas très, très près de l'heure du coucher, par exemple. Puis après, ben, c'est sûr que les choses qu'on connaît, hein, le sucre, la caféine, les choses qui se digèrent moins bien, ça peut affecter le sommeil. Mais souvent, c'est une chose parmi des dizaines de choses. Puis quand on traite des problèmes de sommeil, ben, on va s'attarder à tous ces aspects-là qui peuvent avoir un impact.
La caféine, ceux qui prennent les boissons énergétiques Monster, les gros consommateurs de café dont j'ai fait partie pendant un certain temps, ça peut aussi créer des problèmes de sommeil?
Comment était votre sommeil dans ce temps-là?
Ben moi, j'étais tellement habitué au café là, que j'avais plus de problème à m'endormir, même si j'avais pris un café une demi-heure avant. Mais je sais qu'il y en a qui vont prendre du café ou encore du thé,
Ça
puis
gâche
là,
leur
ben,
nuit,
ça
là.
va gâcher leur nuit au grand complet, là.
C'est vrai, il y a beaucoup de différences individuelles. Il y a une chose que je vais vous dire. Il y a des études qui démontrent que même si on ne se rend pas compte des effets de la caféine sur notre sommeil, là, si on met des petites électrodes sur la tête puis qu'on regarde la composition du sommeil des gens, objectivement, il y a des changements dans la composition du sommeil avec la caféine. Donc, des fois, on s'en rend pas compte, mais il y en a quand même.
Comme l'alcool, j'imagine, parce que l'alcool, on a souvent l'impression qu'on tombe, paf! Mais on se rend compte le lendemain que, oh, la fatigue traîne un peu, même si tu as dormi 10 heures, là.
Oui, puis ça, malheureusement, en vieillissant, ça fait juste empirer, je dirais. Quand on a 20 ans, on le tolère un peu mieux qu'après. Sauf que l'alcool, c'est la même chose. Oui, c'est vrai que des fois, on s'endort plus vite. Hein, c'est un dépresseur, l'alcool. Donc, si on est un peu anxieux, si des fois, là, le petit verre de vin ou deux, ça baisse cette anxiété-là. Par contre, après, notre sommeil est fragmenté. Fait qu'on se réveille beaucoup plus. Ça change aussi notre température corporelle, qui a un impact sur le sommeil pendant qu'on dort. Et on passe moins de temps dans les stades de sommeil profond, puis plus de temps dans les stades de sommeil léger quand on boit de l'alcool. Donc, on récupère moins, finalement.
Le manque d'activité physique, est-ce que c'est une problématique aussi au niveau du sommeil?
Je dirais que oui, c'est sûr que si on est sédentaire, le sommeil, il est là pour réparer. Donc, si on n'a pas bougé de la journée, ça va affecter la qualité de notre sommeil. Puis je vais le virer de bord, ce que vous dites. Quand on bouge, c'est bon pour la qualité de notre sommeil. Et il y a même des moments spécifiques dans la journée qui peuvent être encore meilleurs. Je pense aux gens, des fois, qui ont de la misère à se mettre en action le matin puis qui se sentent bien endormis. Ça a l'air un peu contre-intuitif, mais de faire de l'activité physique à ce moment-là, ça va les réveiller parce que ça nous réveille. Ça fatigue le corps, mais ça réveille le cerveau de faire de l'activité physique. Tandis que d'en faire très près de l'heure du coucher, si on a des gens qui ont de la difficulté à s'endormir, mais là, ça peut retarder l'endormissement, justement parce que ça
Ça
réveille. Donc,
stimule.
généralement, le matin, en fin de journée, c'est des bons moments pour bouger, puis ça va être bon pour notre sommeil.
Le manque de lumière.
Ouais, ben le manque de lumière, on le sent, hein, pas juste sur notre humeur. Faut savoir. Puis là, je rentrerai pas trop dans les détails. Là, vous touchez quelque chose que j'aime beaucoup, la physiologie du sommeil, puis comment ça fonctionne dans notre cerveau. Arrêtez-moi si vous avez besoin. Mais l'idée, c'est que on a besoin de la lumière. Notre cerveau en a besoin pour comprendre qu'on doit sécréter des hormones, par exemple, pour être réveillé pendant la journée, et sécréter d'autres hormones qui sont différentes le soir puis la nuit pour bien dormir. Donc, l'exposition à la lumière, ça aussi, c'est une petite chose qu'on peut faire qui peut avoir des grands impacts. S'exposer à la lumière le matin, pendant la journée, même s'il fait pas très soleil, c'est bon d'aller dehors, de passer du temps et de diminuer cette lumière-là en soirée. Puis pas juste 30 minutes avant d'aller se coucher, là, utiliser les lampes. Là, moi, je suis une grande fan, là, de l'ambiance, de la lumière tamisée. 2, 3 heures avant d'aller vous coucher, ça va préparer votre cerveau tranquillement au sommeil.
À l'inverse, curiosité comme ça, tu sais, il y a des gens qui mettent des veilleuses dans leur chambre et ou qui n'ont pas de rideau parce qu'ils aiment se réveiller vraiment avec la lumière du jour. Moi, c'est un peu mon cas, il n'y a pas de rideau dans ma chambre. Est-ce que ça peut être un perturbateur étant donné qu'il ne fait pas totalement noir?
Je pense qu'il va y avoir des différences individuelles aussi, sauf que si on a des gens qui ont de la difficulté à dormir, qui ont de l'insomnie, j'enlèverais les veilleuses dans la chambre et je mettrais des rideaux, sauf si on a des gens qui ont beaucoup de difficultés à se mettre en action le matin puis à se réveiller. Mais là, le fait d'avoir les rideaux ouverts, c'est comme si ça prépare finalement le corps, le cerveau, puis il y en a certains que ça peut aider.
On a un texto d'auditeur, Yannick, qui nous dit combien de temps on récupère une dette de sommeil? L'exemple qu'il donne, c'est que lui, sa nuit est coupée plusieurs fois parce que bébé se réveille. Puis il essaie de récupérer cette dette-là en faisant des siestes de temps en temps. Mais tu sais, il se demande est-ce que réellement tu peux le récupérer, le sommeil? Puis si oui, ben de quelle façon?
C'est une bonne question. On ne le récupérera jamais au complet. Par contre, notre cerveau, notre corps, il est bien fait. Il est fait pour s'adapter, récupérer une dette de sommeil. Ce que ça veut dire, là, c'est que quand on est en privation de sommeil, par exemple, on s'est réveillé, on était 2-3 heures, on s'occupait de bébé pendant la nuit, les nuits suivantes, si jamais il y a moins de réveil, le sommeil va être plus profond. Le sommeil va s'approfondir. C'est ce qu'on appelle un rebond de sommeil. Le fait de faire des siestes, c'est très bon aussi parce que là, on va chercher du sommeil un petit peu plus et de dormir quand on peut, mais on ne va pas rattraper au complet ces privations de sommeil-là dans cette situation ou dans d'autres types de situations.
Docteur Maude Bouchard, quand on fait le tour du monde, on s'aperçoit, on entend plein d'histoires, dont des gens qui ont peut-être moins besoin de sommeil que d'autres personnes. Bon, au Canada, là, je sais qu'on est autour de 7, 8, 9 heures, là, mais dans certains pays asiatiques, on parle de 4 à 5 heures de sommeil. Est-ce que c'est une légende urbaine, ça, ou ça existe vraiment, des gens qui peuvent dormir 4 à 5 heures et être top shape, comme des gens qui dorment, je sais pas, 12 heures et être top shape aussi?
Bien, c'est tout à fait vrai qu'il y a des différences. Puis d'ailleurs, vous dormez combien d'heures par nuit pour être... est-ce que vous savez combien d'heures ça vous prend?
Dans mon cas, moi, c'est à peu près 6 heures. 6 heures maximum.
Un 6 heures.
Mais j'ai développé une technique, Doc. Je ne sais pas si c'est juste dans ma tête, mais je me couche toujours à la même heure, je me lève toujours à la même heure. Puis il y a juste la fin de semaine où je triche, où je me permets des fois de faire une petite sieste de 20 minutes en après-midi. Mais sinon, je suis un gars plate, moi, dans la vie. J'ai toujours mon heure de coucher puis mon heure de lever qui est la même affaire, même la fin de semaine.
Ça, c'est un excellent truc. D'ailleurs, on l'utilise, ce truc-là, quand on traite le sommeil des gens qui souffrent d'insomnie, d'être très
Bravo, Yann!
redondant, hein? Mais on associe ça à être plate, sauf que pour le cerveau, pour le corps, c'est très, très bien. Et ça revient rejoindre ce que je disais sur les rythmes du sommeil, sur le cycle éveil-sommeil. Ça, c'est bon. Et pour revenir à la question, justement, sur les différences, le fameux 8 heures de sommeil, c'est une moyenne. Fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont besoin de plus et il y a des gens qui en ont besoin de moins. Et c'est tout à fait vrai. Après, tu sais, ce qui se passe d'un pays à l'autre, je pense qu'il y a aussi probablement un aspect culturel, comment ça se passe dans le monde du travail. Des 4-5 heures, c'est très peu fréquent, ça existe, mais c'est vraiment pas la majorité des gens.
Est-ce que c'est un mythe, le avant minuit? Quand j'étais jeune, ma mère me disait, le sommeil, c'est avant minuit si tu veux avoir vraiment une certaine récupération. Fait que c'était pas une question de nombre d'heures, peu importe où tu le plaçais, mais il fallait absolument que tu te couches avant minuit.
Mais là, on touche à autre chose. Ça s'appelle le chronotype. Il y a des gens qui ont une tendance à se coucher tard et se lever tard, et d'autres qui ont une tendance à se coucher tôt, pardon, et se lever tôt. Et ça aussi, il y a des différences entre les gens et même à travers notre vie, hein, parce que quand on est ado, par exemple, on se couche tard, on se lève tard, puis quand on vieillit, mais là, tranquillement, ça avance tout ça. Donc, le avant minuit, je dirais, c'est plutôt un mythe. Par contre, je pense que ça tient, c'est là parce que en début de nuit, là, c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle du sommeil lent profond. On peut l'appeler aussi sommeil à ondes lentes. C'est là qu'on l'a en début de nuit. Fait que je pense que c'est peut-être là que ça prend son assise, cette expression-là.
OK. Moi, j'ai acheté une montre intelligente. OK. Et je l'ai la nuit, ce qui fait en sorte qu'on voit les données de mon sommeil. On parle de sommeil profond, sommeil fondamental, sommeil paradoxal. On parle de phases d'éveil aussi pendant la nuit, là. C'est ce que mon application me mentionne. J'ai été surpris par le très peu de temps de sommeil profond, là. J'étais à 56 minutes. Fondamental, j'étais à plus de 4 heures. Et le paradoxal, j'ai à peine 30 minutes. Mais pourtant, moi, ça me fonctionnait. Puis j'ai certaines petites phases d'éveil aussi au travers. Donc, est-ce que les montres intelligentes donnent vraiment les bons résultats de nos phases de sommeil?
Ben, elles sont de mieux en mieux, je dirais. Mais non, c'est pas tout à fait parfait. Puis des fois, puis tout dépendamment de la montre aussi, puis de la technologie. Moi, la première question que je pose aux gens qui ont ces montres-là, c'est est-ce que ça vous stresse ou non par rapport à votre sommeil? T'sais, est-ce que vous vous réveillez le matin, puis vous avez bien dormi, puis vous êtes satisfait, puis là, vous regardez votre montre, puis il y a du rouge, puis là, ça, vous vous mettez à stresser à cause de ça? Première question. Après, je vous laisse faire les conclusions par rapport à ça. La deuxième, des fois, ça peut être une motivation de regarder ça. Par exemple, de dire, OK, ben là, j'ai un défi, je vais essayer d'avoir un horaire plus régulier, puis là, je vais me fier à ma montre. Donc, quand c'est une motivation, pourquoi pas l'utiliser?
J'avais entendu dire que c'était pas une question d'heure de sommeil, mais de cycle. Puis là, écoute, peut-être que c'est j'ai lu n'importe quoi, mais qu'il fallait, mettons, avoir tant de cycles, en fait, dans une nuit pour que ton corps soit réellement réveillé. Comment ça fonctionne exactement, ces affaires de cycles-là? Parce que, tu sais, on l'entend souvent des fois, « Ah ouais, mais là, j'ai dépassé mon cycle, tout d'un coup, je suis réveillée, il faut que j'attende que le prochain starte, là. »
Mais là, vous me faites plaisir parce qu'on parle de physiologie du sommeil. C'est mon sujet préféré. Et les cycles puis les heures, c'est un petit peu la même chose dans le sens où un cycle de sommeil là, dans la nuit, c'est une succession de différents stades de sommeil. Ça dure à peu près 1 heure et demie, un cycle. Et c'est toujours une portion de sommeil lent au début, puis après, sommeil paradoxal, celui qu'on associe au rêve. Donc, les gens qui disent, par exemple, qu'ils se réveillent au milieu d'un cycle, puis qu'ils se sentent gommés, tu sais, il y a ce qu'on appelle de l'inertie de sommeil, c'est un peu normal parce que à la fin d'un cycle de sommeil d'à peu près 90 minutes, il y a un allègement du sommeil. Ça se peut qu'on se réveille. Donc, tu sais, si on en a plusieurs dans notre nuit, ça se peut qu'il y ait des micro-éveils ou même des éveils de quelques minutes après. Et donc, c'est plus naturel de se réveiller à la fin d'un cycle. Sauf que des fois, avec notre horaire, ben, c'est pas toujours possible de calculer tout ça parfaitement. Et des fois, c'est mieux d'aller en chercher un petit peu plus et de se réveiller au milieu d'un cycle puis de se sentir un peu gommé pendant 10-15 minutes que de perdre 45 minutes de sommeil à toutes les nuits parce qu'on essaie d'avoir un nombre défini de cycles, je dirais.
Qu'est-ce qui fait en sorte, bon, j'ai pas vos études là, que vous avez fait, mais j'ai beaucoup lu justement sur le sommeil parce qu'il est arrivé quelque chose, puis je vais vous en parler tantôt. Je pense qu'Audrey va être contente d'entendre parler de ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui bougent toute la nuit alors que moi, je me couche dans une position, puis je me réveille dans la même position? Il y en a qui tournent d'un bord, qui tournent de l'autre. Il y en a qui parlent, il y en a qui boxent aussi dans leur sommeil, là, qui donnent des coups. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau qui ne se passe pas dans les gens qui bougent pas pantoute?
Bien, ça, c'est une bonne question. Puis les mouvements pendant la nuit, déjà, si on a tendance à se réveiller plus, donc à avoir plus de périodes d'éveil, ça se peut qu'on bouge plus pendant ce temps-là, tandis que, tu sais, si on a tendance à rester endormi pour une longue période, ça se peut qu'on bouge moins. Il y a des stades de sommeil dans lesquels on ne bouge pas du tout. Tu sais, on parlait du sommeil paradoxal, là, c'est le stade dans lequel on rêve le plus, sauf que nos muscles sont complètement ben, paralysés. En fait, on ne bouge pas pendant ce stade de sommeil-là, et ça, c'est bien fait, c'est le cerveau qui fait en sorte qu'on ne puisse pas agir nos rêves, parce que ça pourrait être dangereux. D'ailleurs, les gens chez qui ça arrive, c'est un trouble de sommeil, ça. Quand on commence à perdre cette atonie musculaire-là pendant le sommeil paradoxal, ça arrive beaucoup, pas beaucoup, mais dans le vieillissement chez les hommes plus, ben là, c'est un trouble de sommeil et on doit en parler à son médecin.
Est-ce que, tu sais, là, on parle beaucoup de ce sommeil lent, paradoxal. Il y a peut-être des gens qui n'ont aucune idée quel langage on parle. Est-ce qu'il y a moyen de l'expliquer rapidement, de façon concise, le paradoxal profond et léger, pour donner une idée aux gens?
Oui, je vais essayer ça. Donc, il y a, tu sais, quand on est réveillé, on est conscient de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis quand on dort, ben, on est dans un autre stade de conscience. Puis à l'intérieur du sommeil, il y a différents niveaux de conscience aussi. Et il y a deux grosses catégories, celle du sommeil lent puis celle du sommeil paradoxal. Et dans le sommeil lent, ben là, on a des degrés de profondeur. Donc, on a du sommeil très léger. Quand on vient juste de s'endormir, on est dans les stades de sommeil lent léger. Et plus ça avance, plus ça devient profond pour atteindre le sommeil lent profond. Et au niveau de notre cerveau, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe pas les mêmes choses. C'est très complémentaire, ces stades de sommeil-là.
Je vais vous parler de deux événements qui sont arrivés dans ma vie, puis je vais vous poser la question en premier à vous, docteur Maude Bouchard, qui est neuropsychologue et spécialisée en sommeil. Est-ce que vous avez déjà fait de la paralysie du sommeil?
Moi, j'ai déjà fait de la paralysie du sommeil.
Ça m'est arrivé deux fois.
Est-ce que ça m'est fait.
Puis je peux te dire, Audrey, que moi, j'ai pas les connaissances de doc, là, mais quand ça m'est arrivé la première fois, je pensais que j'étais devenu quadraplégique pendant mon sommeil. J'étais éveillé, mon corps bougeait pas, j'étais incapable de bouger un membre, puis j'avais l'impression, c'est la télé qui fonctionnait dans le salon, là, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me regardait ou qui m'observait. Je filais vraiment pas. Puis cet événement-là, dans ma tête, ça a duré, Audrey, 45 minutes, alors qu'en réalité, quand tu lis un peu là, sur ce qui a été écrit là-dessus, c'est quelques secondes, tout simplement.
Et que c'est spécial!
Ouais. Qu'est-ce que la paralysie du sommeil, Doc? C'est causé par quoi?
C'est fou, puis c'est tellement le fun de pouvoir en parler parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vous écoutent qui vont se reconnaître puis qui vont voir « Ah, c'était de la paralysie du sommeil, dans le fond, cette sensation-là. » C'est vraiment, la paralysie du sommeil, ça arrive souvent vers la fin de la nuit quand on est en train de se réveiller. On parlait de cycle de sommeil tantôt. À la fin d'un cycle de sommeil, on a toujours une portion de sommeil paradoxale. Et donc, on rêve dans ce stade-là, mais nos muscles ne bougent pas. La paralysie du sommeil, c'est un phénomène où est-ce que notre cerveau est réveillé, mais cette partie-là du sommeil paradoxal, où est-ce qu'on est, les muscles sont un peu paralysés, ne part pas tout de suite. Donc, c'est comme un entre-deux entre les niveaux de conscience. C'est très anxiogène parce que, justement, on a l'impression qu'on est réveillé, mais on ne peut pas ouvrir les yeux, on ne peut pas crier, on ne peut pas bouger. Et des fois, ça se mixe avec ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogique ou hypnopompique, mais l'idée, c'est qu'on peut halluciner des choses aussi. Puis ça, c'est bon d'en parler parce que les gens, des fois, pensent qu'ils vivent fou de voir des choses qui se passent dans leur chambre à coucher ou d'entendre des bruits qui n'existent pas vraiment.
Doc, j'ai vraiment... fait un voyage astral! Doc, j'ai fait un voyage astral!
Mais c'est ça, les gens vont se demander. Puis même des fois, il y en a qui sont très stressés de parler de ces choses-là. Ils se demandent s'ils ont un problème. Mais dans les transitions entre les niveaux de conscience, donc quand on s'endort et quand on se réveille, il peut arriver des phénomènes comme ça. Et ça, c'est exacerbé si on est en privation de sommeil, ces phénomènes-là.
OK, fait qu'on peut, on peut tenter de l'éviter parce que moi, je ne tiens pas à vivre ça dans ma vie, là.
Oui, ben puis c'est pas tout le monde qui va le vivre, mais il y a quand même une proportion de la population qui va avoir ces phénomènes-là. Mais c'est sûr que si on dort suffisamment, on a moins de chances de vivre ces expériences.
Moi, c'est arrivé, j'avais fait un 18 heures de travail en ligne, Audrey. Fait que j'étais arrivé chez nous, il devait être autour de 17h, 18h le soir. Il n'y avait personne à la maison. Je me suis couché sur le divan. Ça date d'à peu près 15 ans, ce que je te parle. Là. Je me suis couché sur le divan. J'avais allumé la télé. Je ne me souviens pas ce qui était à la télé. Puis je m'étais endormi, mais quelques minutes. Puis c'est arrivé. Là. Mais quand ça arrive, puis tu ne sais pas c'est quoi, tu te poses énormément de questions. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le manque de sommeil et les maladies?
Le manque de sommeil, certains troubles de sommeil peuvent être liés à des problèmes de santé physique, à des problèmes de santé mentale. C'est très central, le sommeil, à notre santé, que ce soit notre système immunitaire, que ce soit notre santé cardiovasculaire, notre poids même. Donc oui, ça peut avoir beaucoup d'impact très large.
J'ai envie qu'on se tourne vers les auditeurs parce qu'honnêtement, ça fait excessivement réagir ce matin notre conversation. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai de l'apnée et je fais 102 arrêts respiratoires environ par heure. La machine ne marche pas pour moi et ça fait 2 ans que j'attends pour voir un ORL. Y a-t-il quelque chose à faire en attendant pour peut-être s'aider un peu? »
Ça, c'est difficile. Donc, l'apnée du sommeil, c'est le fait d'arrêter de respirer pendant la nuit. Puis ça peut être très sévère ou ça peut être très léger. Mais à chaque fois qu'on arrête de respirer, le cerveau, il se réveille. Donc, si ça arrive 100 fois à l'heure, ça veut dire que notre sommeil est extrêmement fragmenté. On va être très somnolent pendant la journée. Il y a différents types d'apnée, mais le plus fréquent, là, c'est de l'apnée obstructive. Ça veut dire que l'air ne passe pas. Ça peut être dû à un surplus de poids. Ça peut être dû au vieillissement parce que nos muscles deviennent plus flasques. Ça peut être dû à différentes choses. C'est difficile parce que c'est ça. Le suivi... Selon s'il est bon, s'il est moins bon, ça peut avoir des impacts. Généralement, la machine va fonctionner assez bien, mais il y a beaucoup de... Des fois, il faut changer les masques. On doit avoir un suivi assez serré à ce niveau-là. Mais c'est médical, donc on doit passer par les suivis.
Il y a quelqu'un qui nous demande votre avis sur le somnambulisme sexuel. Et ça, j'ai l'impression qu'on pourrait se reparler pour une chronique complète, là. Non, mais il y a des gens qui nous parlent de somnambulisme tout court. Genre, j'ai mangé des saucisses hot dog congelées, on nous dit sur le Twitch, sans jamais m'en rendre compte. Et il y a quelqu'un qui nous dit somnambulisme sexuel. Est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup vu? Puis si je me trompe pas, ça a déjà été utilisé en cours, cette affaire-là.
Palais de justice de Québec, effectivement. Ouais.
Effectivement. Donc, le somnambulisme, à la base, c'est un trouble de sommeil qui se passe dans le sommeil lent profond. Donc, ça va arriver plus en début de nuit. On en voit généralement en plus chez les enfants puis chez les ados parce qu'eux, ils en ont plus de sommeil lent profond que nous, les adultes. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui ça va disparaître en vieillissant. Après, ben, les actions qu'on fait quand on est dans le somnambulisme, il peut en avoir énormément. Je pense que ça revient à. Ça vaut la peine de parler de ces symptômes-là. Tu sais, des fois, là, les problèmes de sommeil où on voit son médecin, on a plein de choses à y parler, puis on se dit, bah, ça, c'est moins grave. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que dès qu'il y a des symptômes de somnolence ou des symptômes, par exemple, de somnambulisme, ça vaut la peine d'en discuter avec le médecin parce qu'il y a des solutions hein, aussi à ces choses-là ou il y a des changements d'habitude de vie, des fois, qu'on peut mettre en place qui vont aider certains troubles de sommeil aussi.
Okay. Dernière question, Doc, avant de vous laisser partir. Je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui. Les gens qui mangent durant la nuit, il y en a plusieurs là, qui nous écoutent, j'imagine, qui peuvent nous texter au 88-971-1021. Est-ce que de manger pendant qu'on dort, parce que ces gens-là sont un peu somnambules aussi, ça peut avoir un impact négatif sur notre sommeil?
Ça peut avoir un impact négatif sur le sommeil. Après, il faut faire la distinction si justement c'est quelque chose qui se passe pendant qu'on n'est pas conscient, c'est-à-dire pendant une période de somnambulisme, ou si c'est on s'est réveillé, on a de l'insomnie, puis on a envie d'un petit bol de céréales. C'est pas la même chose. Ce que je dirais, c'est que faut essayer d'éviter ce genre de choses-là parce que la nourriture, c'est une récompense pour le cerveau. Et s'il y a des récompenses à 2 h du matin, ben le lendemain, le cerveau, il va vouloir la même récompense. C'est un petit peu la même chose avec les écrans. Malheureusement, on est très habitué d'avoir ça. On dort hein, peut-être avec notre cellulaire juste à côté de notre tête. Mais quand on se réveille, ça vaut la peine de ne pas regarder l'heure, de ne pas regarder les écrans parce que notre cerveau voit ça comme une récompense et il va vouloir répéter ce comportement-là. Il va se réveiller encore après.
Il y a tellement de questions, Kant, que je me suis fait une liste. Je pense qu'on n'aura pas le choix de se faire une partie 2 dans quelques semaines.
Avec
On
plaisir.
a effleuré plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut peut-être pousser un peu plus loin. Merci, c'était tellement le fun.
Avec grand plaisir. Merci pour la belle conversation.
Passez une excellente journée. On avait le plaisir de jaser avec Dr Maude Bouchard, qui est neuropsychologue spécialisée en sommeil. Sommeil, ça touche tout le monde, hein?
Eh bien oui, on
Puis
n'a
tu
pas le
sais,
choix.
la paralysie du sommeil, là, je voulais lui en parler parce que je savais que ça allait aider énormément de gens à comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé. C'est terrorisant quand tu fais ça la
C'est
première
pas un
fois.
don, c'est pas une affaire de paranormal,
Non,
c'est pas, c'est juste
mais
le
sauf
cerveau.
que comme tu es dans ton sommeil, tu es dans ton imaginaire, Audrey, puis tu es réveillé. Normalement, quand tu es réveillé, tu n'es pas supposé te voir des affaires que tu vois juste dans tes rêves,
Mais
là.
non, c'est ça.
Mettons Pamela Anderson ou. Excusez, c'est pas là où je voulais aller. Mais tu comprends?
Oui, toi, c'est tes visions, mais il y a des auditeurs qui nous parlaient de masse noire.
Ah, ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui ont raconté, parce que moi, je lisais là, sur des sites de gens, des sites qui parlaient du sommeil, qui avaient vécu cette paralysie du sommeil-là. Il y a des gens qui disaient avoir eu des conversations avec Dieu, là.
Tabarnouche.
Fait que tu sais, c'est leur imaginaire qui font en sorte qu'ils ont l'impression. Tu sais, ils sont réveillés, mais ils parlent. Ils ont l'impression qu'ils parlent avec Dieu. Fait qu'ils disent, ouais, mais moi, je l'ai vécu. Tu peux pas savoir ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. C'est juste que le cerveau te joue des tours. Au même titre que peut-être qu'on pourra en parler avec Doc Maude Bouchard la prochaine fois qu'on va lui parler. Il y a des recherches qui ont été faites sur les gens qui décédaient puis qui étaient réanimés par la suite. Qui
Oui.
disait avoir vu le fameux couloir où il y avait une lumière au bout du couloir et tout ça, ben, ils se sont aperçus, contrairement à ce qu'ils pensaient, que le cerveau ne se ferme pas comme une lumière de pièce.
La mort cérébrale n'est pas instantanée, genre là.
Elle n'est pas instantanée, mais ils ont longtemps pensé que ça, c'était ça. Fait que le cerveau arrivait, tu fermais la switch, tout s'éteignait. Mais là, ils se sont aperçus, Audrey, que le cerveau s'éteint en étapes. Jusqu'au moment où la dernière étape, ça s'éteint. Et cet endroit-là en particulier, ça prend un certain temps avant d'éteindre cette partie-là. Bien, c'est l'endroit où tes souvenirs sont emmagasinés, où ça te permet de rêver. Donc, ce que les scientifiques pensent, c'est que les gens disent, ah, mais c'est parce que là, quand j'étais mort, bien là, je voyais des gens que j'allais retrouver au paradis, exemple, qui était déjà
Mais c'est juste
mort.
la boîte à souvenirs, mettons, qui travaille.
Mais c'est la boîte à souvenirs qui travaille.
C'est capoté,
Ce que les scientifiques ont dit, c'est ça. Moi, je sais pas. Je suis pas un scientifique, puis ça demeure des hypothèses. Mais ce qui est curieux, Audrey, c'est que peu importe le continent où tu vas, quand il y a des gens qui disent, moi, j'ai vécu un épisode de mort subite, puis après ça, on m'a réanimé, ben j'ai vécu des affaires. Ça, sur tous les continents, ce fameux couloir-là, cette lumière-là est mentionnée.
Tu sais, tu parlais du fait de... Comment t'appelais ça? Ce que t'as vécu, là?
Paralysie du sommeil.
Paralysie du sommeil. J'ai entendu des histoires aussi de femmes, mettons, qui avaient accouché. Puis, tu sais, avec l'épuisement et tout, là, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voyait des anges, mettons, dans la chambre. Ça, t'as-tu déjà entendu d'entendre ces affaires-là? Puis c'était ça, un peu, l'explication aussi. Que ouais. C'était juste, ton corps est tellement épuisé que t'es comme dans un entre-deux, puis justement, t'as ces apparitions-là. Puis c'est là que tu vois qu'il y a plein de réponses scientifiques. Tu sais, souvent, on trouve ça un peu anormal, mais je trouve ça passionnant, finalement, de voir que c'est juste le cerveau qui réagit.
Un autre épisode que j'ai souvent, régulièrement, là, par rapport au sommeil, c'est... moi, j'ai deux chats chez nous. C'est des chats pas de poils. Fait oui. Que quand je me couche, je peux être sûr qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de la chaleur. Là. Fait qu'ils viennent tout le temps me rejoindre. Puis l'après-midi, mon petit samedi ou mon petit dimanche, quand je décide d'aller m'étendre, je m'endors. Mais au moment où je suis entre l'éveil puis l'endormissement, j'ai toujours l'impression que le chat y arrive, qu'il monte sur le lit. Je le sens marcher, puis je le sens se coucher à côté de moi. Puis à ce moment-là, ça me réveille, je regarde, il n'y a rien. Fait que c'est vraiment le cerveau qui te joue des tours
c'est
parce
spécial.
Que t'es entre l'éveil puis le sommeil. Pour Doc Bouchard, j'imagine qu'elle entend ça souvent, ce genre d'histoire-là. Mais c'est weird parce que là, tu te dis, voyons, ce que c'est, je viens de vivre là. T'sais, j'ai l'impression que mon chat, il a monté sur le lit, je l'ai entendu avec mes oreilles puis je l'ai senti.
Je suis débile.
Je suis débile. Mais quand tu lis là-dessus, tu comprends que c'est tout le temps ton cerveau qui te joue des tours. Quand tu regardes les nuages,
oui.
Tu trouves une forme.
Oui.
Tu trouves une forme dans le nuage. Ah, OK, ben, parce que le cerveau déteste voir quelque chose qu'il ne connaît pas. Fait que s'il voit un nuage avec sa forme, il va essayer de le mettre.
De
comme...
le reconnaître, oui.
Regarde, ça, c'est un lapin. Ah, ça, c'est une tortue. Ça, tu fais ça. Ben, quand tu étais enfant, que tu te couchais, que tu regardais dans ta chambre, même s'il faisait noir, puis que là, quand tu regardais dans ton garde-robe, c'était, la porte était entr'ouverte, puis avec les vêtements, ça faisait une forme.
Ah, oui, moi, ben,
tu avais l'impression de voir des yeux.
Oui.
Ben ça, c'est de la pareidolie. Fait que c'est ton cerveau qui sait pas c'est quoi, mais qui donne une forme que là, tu vas savoir c'est quoi.
Ah, ça, j'ai déjà fait ça.
Fait que c'est de la pareidolie. Tu regardes, il fait noir, puis là, tu regardes ta patère chez vous avec des manteaux.
Puis on dirait qu'il y a quelqu'un, là, dis, oh mon Dieu, mon Dieu,
il y a quelqu'un qui me regarde.
Et puis ça, là, je veux dire, le cœur t'arrête, ça m'avait fait ça chez ma grand-mère dans le sous-sol. J'avais dormi dans une chambre dans laquelle je dormais pas normalement. Puis il y a une patère, puis sur le top, pour mal faire, en plus des manteaux, puis tout, il y a un chapeau. Fait que tu comprends que quand je m'étais réveillée en pleine nuit un peu mêlée, là, le cœur m'avait arrêté. Puis là, tu te demandes toujours qu'est-ce que tu fais, là. Ah, c'est vraiment spécial.
Fait que c'est clair qu'on va reparler avec Doc Bouchard, qui est neuropsychologue spécialisé en sommeil. Il y a plein de sujets à jaser concernant le sommeil, puis plein d'histoires qu'elle doit avoir entendu et accumulé.
Oui.
Moi, j'en ai plein à te raconter parce que j'ai lu là-dessus. Là. Tu sais, quand tu te poses des questions à savoir si t'es débile, tu peux aller loin pour prouver que tu ne l'es pas.
Mais regarde, je me suis pris plein de notes sur vos troubles, sur les questions qu'on se pose. Ma feuille est pleine. Je garde ça de côté puis on la rebook dans les prochaines semaines.
Courte pause, on vient.
Le pentathlon des neiges Sunlight.
Oh là 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 là.
Oh boy, j'ai ouvert le...
J'ai cochonné, hein?
Oui.
Oups.
On t'a entendu faire le petit cochon. Le petit cochon, laisse-moi entrer.
Ça, c'est comme quand tu ris de façon un peu lâche, ça, là.
C'est qui que tu connais ici qui a le rire le plus weird?
Hey, c'est une grosse question, ça.
Moi, c'est toi.
Pour vrai?
Ouais.
Hey, je vais le prendre comme un compliment. C'est-tu contagieux au moins?
C'est
ça
tout
fait
le temps.
Je pense que dans la catégorie des rires weird, il y a Gab Marino qui fait nos sports le lundi, le top de sport, là, qui
rit,
est à week-end. Mais ça arrive pas souvent, mais quand tu ris, je veux dire, tu l'entends et c'est contagieux. Là. Une fille du monde de la radio qui a déjà été ici à Boulevard, qui a un rire pour moi qui est hyper contagieux, c'est Patricia Vincent. Son rire m'a toujours transpercé tellement qu'elle rit.
Elle rit fort.
Ah, elle rit fort puis elle rit de bon cœur. Ouais. Fait que t'as pas le choix de sourire. Toi,
exact.
C'est qui la personne? C'est moi, tu
sais. C'est toi.
Y a personne d'autre dans la station, on est une gang. Là.
Christian me fait penser. Laurence. Laurence, elle cochonne aussi.
Laurence Gagnon.
Oui, puis elle est par phase. Fait comment, elle commence à rire comme les gens normaux.
Puis à un moment donné, quand c'est trop.
Après ça, c'est comme si c'était un char qui partait pas.
C'est pas pire.
Puis après ça, ça cochonne.
Moi, quand c'est trop drôle, je style.
Je sais pas si je serais capable d'aller chercher.
T'as jamais stylé de rire. Tu ris tellement qu'il n'y a plus grand-chose qui sort.
Ouais, quand j'étais avec mes chums. Ouais, j'ai des chums qui sont capables de me faire partir. Là. Quand on est 4-5 à se dire des niaiseries. Puis, tu sais, j'ai tout le temps l'impression que je vais avoir le mot de la fin qui va les faire casser. Puis après ça, il y en a un autre qui rajoute quelque chose, puis il y en a un autre qui rajoute quelque chose.
Puis des fois, je suis plus capable. T'as mal au ventre, là. Mais, c'est... Non, mais ces gens-là sont précieux, par exemple. Je t'avais déjà parlé de la thérapie par le rire, hein?
Non.
T'as jamais parlé de ça?
Non.
Oui, je t'ai déjà parlé de ça, Yann. J'ai déjà fait des chroniques avec toi dans ton show avant de co-animer avec toi, là.
Ouais.
T'es aimé-tu les chroniques? T'es écoutais-tu?
J'étais-tu là? c'est les femmes. J'avais une joke de Laurent, je sais pas si je suis capable d'aller chercher.
L'histoire d'un pingouin qui...
Voyons. Mal parti.
C'est l'histoire d'un pingouin qui respire bien par les fesses.
Ouais.
Un jour, il s'assoit puis il meurt.
Ah, je vais entendre le cochon.
Tu l'entends-tu? À craindre.
Dure semaine.
4-1-8. Seigneur. Ah, mais ça fait du bien, les gens qui rient. Moi, des fois, je me force à rire. Je vais essayer d'écouter, mettons, un clip.
Tu te forces
là
à rire.
Ben oui, tu sais que, mettons, quand t'as une journée de schnout, là, je vais aller chercher sur YouTube. C'est-tu Laurent Paquin qui avait fait un sketch sur les gros?
Non. Je sais pas.
Hey, je suis désolée, là, j'ai déjà été en surplus de poids solide, OK? Là, fait que je rentre okay dans la gang, là.
Ah ouais.
Mais non, mais tu peux rire de toi-même à un certain moment, là. C'est que même après avoir maigri, je te trouve encore drôle. Puis je pense que c'est le sketch qui
j'ai
me fait
le droit
le plus
de faire des jokes sur les noirs. J'ai un ami noir. Voyons donc. Non. Tu peux pas faire ça, des jokes sur les gros.
Mais oui, tu peux aller à m'amener, là.
Mais non, ça se fait.
Les gens qui sont gros le savent. Moi, je savais que j'étais grosse.
Ils sont les premiers formés.
Mais oui, c'est. Ils se voient dans le miroir tous les matins,
quand
la
quand vous traitez quelqu'un de gros, d'après moi, vous êtes le deuxième, vous êtes le premier.
Mais faut pas que tu traites les gens de gros, mais ce sketch-là m'avait tellement fait rire parce que Laurent Paquin lui-même avait un énorme surplus de poids. Puis je mettais ce sketch-là pour me faire rire, puis me partir, puis me donner le sourire. Tout le temps. Ou j'essaye d'écouter du monde drôle, j'essaye de... Parce que la thérapie par le rire est une affaire qui existe, mais je me vois pas me craquer tout seul. C'est niaiseux quand faut que tu te fasses rire tout seul. Essaye de rire là. Sur commande. Là.
Non,
c'est nul.
Ça arrivera
c'est
pas.
C'est nul. Mais il y a des classes qui existent où tu peux payer. Et là, la prof rit. Là, tu finis par rire parce que tu trouves ça drôle qu'elle rit. Puis là, tout le monde finit par rire. Puis là, ben, je veux dire, tu sors de là, t'es heureux, ben raide.
C'est franchement intéressant. Ouais. Le 10 février prochain à 20h, les amis, venez assister au premier spectacle hommage à AC/DC en formule symphonique au Grand Théâtre de Québec. Vous allez halluciner. Moi, j'ai vu les autres formules avec Nirvana, entre autres, où j'ai vraiment trippé. T'as un band hommage, puis derrière, t'as l'Orchestre symphonique de Québec. C'est de toute beauté à entendre. Donc, vivez le sentiment enveloppant d'un concert symphonique tout en pouvant apprécier vos précieux classiques rock. Billets en vente au grandtheatre.qc.ca.
grandtheatre.qc.ca.
Oui, ouais, c'est un band hommage qui est là. Puis t'as le
fait que c'est pas qu'un instrumental avec l'orchestre.
Le chef d'orchestre qui fait semblant qu'il connaît la musique en bassant la baguette.
Franchement.
Puis t'as les
musiciens
de toute l'Orchestre symphonique de Québec. C'est vraiment une super belle soirée que j'ai passée. Puis c'est un de mes chums qui organise ça avec un autre homme d'affaires de Québec. Donc AC/DC Story symphonique, une présentation de gestion SDPL et de l'Orchestre symphonique de Québec. On a deux paires de billets à vous faire gagner pour le 10 février. Le mot de passe, Audrey.
Le mot de passe, ciboulette. C'est tout ce qui m'est venu.
Non.
T'aimes pas ça?
Non.
Café?
Non.
Carotte.
Échalote, mais il faut l'écrire sans faute.
Échalote?
Ouais.
Ah, mais c'est un mot facile.
Tu l'écris comment, toi, échalote?
Là, tu sais, accent aigu.
Ouais.
C-H.
Ouais.
L-O. T. Je me demande si c'est un deuxième. T-T-E? Non, pas deux T. T-E.
Deux ou un?
Un.
Deux L? Un L?
Un L.
OK.
Je l'ai dit.
418-971-1012. Mais non! Ça me prend le mot de passe, échalote.
Deux paires de billets, donc. Et donnez votre nom en passant votre numéro de téléphone.
Sa passion. Je vous parle du Tonic Gym. C'est où le Tonic Gym? C'est dans l'ancien Palladium. C'est dans les anciens locaux du Palladium. C'est immense. C'est le plus gros gym à Québec. Tu veux un appareil, c'est ton appareil à toi. T'arrives là, t'en as à peu près 10 que tu peux prendre pareil comme tu voulais. Je prends Pascal CV qui aime bien ça, le bench press. Là. Elle aime bien ça, bencher avec des plates. Elle a besoin d'un bench press. Fait qu'il y en a à peu près 10 aussi. Fait que vous allez pouvoir bencher peut-être avec Pascal CV aller au Tonic Gym. C'est tout sous un même toit avec des appareils qui sont neufs. Il y a une immense section cardio avec un grand nombre d'appareils Matrix dernier cri. La zone cardio va te permettre de te pousser au max. T'as pas idée. Il y a plusieurs sections d'appareils musculaires, des zones exclusives pour le bas du corps, boutique et bar santé, coaching privé. Et Audrey va faire un tour une fois de temps en temps aussi. Je pense qu'elle est plus dans... Toi, t'es-tu plus dans les activités de groupe là, de mémoire?
Je fais des deux, mais j'aime beaucoup, beaucoup leurs cours. Ils ont le Tonic Fit et le Cardio Fit, qui sont des entraînements, dans le fond, où tu es une gang, mais c'est individuel avec un entraînement au tableau. Là. C'est efficace en petit pépère c'est en une heure, on va dire.
Moi, le samedi après-midi, ou ben, quand il y a des games de foot, ou bien le samedi soir, quand il y a un game de hockey, ben, tu as un gros écran géant.
C'est malade.
Qui est immense, le
fun. Il y a un DJ le vendredi aussi. Hein?
Un DJ le vendredi. C'est débile.
Je me fais traiter sur place aussi. Ils ont pas mal tout au Tonic.
Tu te fais traiter? OK.
C'est vrai, je me fais traiter. Yannick Pagé, c'est un thérapeute du sport qui est au Tonic directement, qui est aussi entraîneur. Fait que vous avez comme le kit complet. Tu te blesses, tu restes dans la boîte.
Tonicgym.ca pour plus de détails.
La clinique Ovel offre des soins.